Et bon, là, c'est un problème épineux, c'est votre entrée dans le gouvernement espagnol.
Écoutez, ça, c'est un peu long à raconter, parce que...
Enfin, au moins, dites-nous votre opinion maintenant avec le recul.
Non, je vais vous dire, avant tout, on ne peut pas dire mon opinion avec le recul, parce qu'il faut se placer dans le contexte de l'époque pour comprendre. Maintenant, hein. Maintenant, je peux dire si le résultat valait la peine du sacrifice qu'on a fait. Je peux le dire ça. Mais il faut comprendre la situation à ce moment-là. Avant tout, le dilemme ou le problème qui sera le problème et le dilemme de toutes les révolutions, c'est une fois qu'on a fait la révolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'ils ont fait les bolcheviks en Russie, prendre le pouvoir par un coup d'État et s'ériger en dictature, en tuant ou en déportant tous les ennemis politiques, hein, avec un éventail d'ennemis qui en Russie a commencé par la droite, a continué par les mencheviks, les groupes de Kerensky. S'est poursuivi sur les socialistes révolutionnaires, sur les syndicalistes, les anarcho-syndicalistes, les anarchistes jusqu'à rester tout seul. Et les trotskistes aussi, un peu plus tard, parce que il ne faut pas se tromper quand même. Trotsky a été celui qui a massacré les marins de Kronstadt et les Ukrainiens révolutionnaires. C'est après que les choses ont tourné mal pour Trotsky à la mort de Lénine. Mais avant la mort de Lénine, ils étaient tous ensemble pour la répression contre toutes les forces d'opposition. La droite, et les gauches, toutes. Alors, c'est le problème qui se pose. On dit, il y en a beaucoup qui disent, vous devez, l'erreur que vous avez commise, surtout à Catalogne, ce n'est pas aller à por todo, secondo a por todo. Prendre tout en main. Mais pour prendre tout en main, il fallait la dictature. Et la dictature supposait liquider tout ce qui avait combattu avec nous contre le fascisme. Les communistes, l'Esquerra Républicaine de Catalogne, qui existe beaucoup, l'Union de Versailles, les socialistes, tout ce qui était la gauche, mais qui n'était pas la CNT, la FAI. Alors il a fallu contemporiser avec tous ces gens-là. C'est pour ça que le comité de milices, tout le monde était là. Il y avait la FAI, la CNT, les Jeunesse de Liberté, les PSU, le Parti Socialiste Unifié de Catalogne, les Partis Socialistes, l'Esquerra Républicaine de Catalogne. On était tous au comité de milices, à niveau national, à Barcelona, et dans tous les comités régionaux, de différentes régions, et locales. C'était tous là. Les politiciens, au premier moment, prime abord, on connaît la phase célèbre des campagnes. Vous altres meneu, vous commandez, vous avez gagné la lutte, vous êtes maître de la rue, c'est à vous de décider. Alors, à ce moment-là, c'était effacé. Vous avez laissé le pas aux forces révolutionnaires. Compris ce mot révolutionnaire, tous ceux qui constituaient le comité de milices. Mais petit à petit, ils sont repris du poil de la bête. Et alors, d'une façon très habile, ils ont commencé à dire, au point de vue international, ça ferait très bon effet qu'au lieu d'un comité de milices, on reconstituait le Conseil de la Généralitat, qui a une tradition de siècles. Toutes les forces qui sont au comité de milices pourraient entrer au Conseil de la Généralitat. On donnerait une impression de normalité constitutionnelle pour l'extérieur, et d'autre part, ce serait le même, ce n'est pas le Comité de Ministres, c'est la Généralitat. Et on a commis, à mon avis, la première grande erreur, accepter la dissolution du Comité de Ministres et la constitution du Conseil de la Généralitat. A été le premier pas en transformant les organismes créés par la révolution en quelque chose déjà qui avait toute l'apparence d'un État. On est entré au gouvernement de la Généralitat, qui ne s'appelait pas de gouvernement, pas du tout, c'était le Conseil de la Généralitat, on y est entré. Et c'était l'engrenage, on y avait mis les doigts, petit à petit, toute la main y est entrée. Après, se constituait le gouvernement Largo Caballero, le premier gouvernement Largo Caballero. Et dans ce gouvernement, il y avait déjà les communistes. Les communistes, qui étaient un petit parti, qui avait 20 000 affiliés, mais que avec les chantages de l'aide des Russes à l'Espagne, quand tout le monde refusait l'envoi d'armes, c'est les Russes qui se sont proposés pour en envoyer, tout avec ces chantages, ils commençaient à gagner des positions. Alors, parmi les camarades, il y a vraiment une sorte de panique. On s'est dit, on risque de passer pour la même épreuve, pour la même tragédie qu'ont passé les anarchistes en Russie. Alors, il ne faut pas les laisser, il ne faut pas les laisser prendre pied. On est allé voir Largo Caballero avec la proposition de constituer un Conseil National de Défense, Conseil National de Défense, qui avait été l'accord de notre plénum de régionales. Et Largo Caballero a dit, écoutez, je comprends vos scriptures, votre situation, mais si nous, gouvernement légitime de la République, qui a encore la capitale de l'Espagne en main, qui est reconnu encore pour tous les gouvernements à part l'Italie et l'Allemagne, nous nous transformons en Conseil National de Défense, nous sommes à peu près les égaux de la Junta de Burgos. Il n'y a plus de gouvernement légitime de la République. Il y a una Junta de Burgos y un Consejo Nacional de Defensa en Madrid. Alors, qu'est-ce qu'on va y gagner? On n'y gagnera rien. C'est mieux que vous compreniez qu'il n'y a d'autres solutions qu'entrer dans le gouvernement. Qui c'est un gouvernement de guerre, un gouvernement révolutionnaire, ou entre vous, CNT, et nous, socialistes, nous sommes la majorité. On se réunit à nouveau, et alors, el Pleno Nacional de Regionales, la suite del primer pleno, a donné une espèce de voto de confianza, comment ça s'appelle bien en français, voto de confianza, au Comité National. Le secrétaire du Comité National était Horacio Martínez Prieto, qui était un homme gagné déjà l'idée de qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'entrée au gouvernement. Et c'est comme ça qu'on y est entré au gouvernement. Mais tous, à ce moment-là, on y est entré avec la conviction qu'il n'y avait d'autre solution pour faire face au danger de l'expansion des communistes, de la même mise des communistes avec les chantages de l'aide soviétique à l'Espagne, et que c'était un gouvernement révolutionnaire pour continuer la lutte, pour faire face aux difficultés de caractère international, et que à ce moment-là, on verrait après si on réussissait faire basculer la situation et à prendre à nouveau plus de choses en main. C'est pour ça qu'on a accepté l'école de guerre dans laquelle García Olivea a tenté de former de jeunes de commissaires politiques à qui sont autre chose. Et tout le monde, après, on disait, là, Peiró au ministère de l'Industrie sera la façon de protéger les collectivités et de réussir à obtenir les matières premières que le gouvernement ne nous disait pas qu'il ne voulait pas les acheter. Mais il manquait de devises, alors c'était toujours des prétextes pour ne pas les donner, parce que ce qu'il ne voulait pas, c'était les succès des collectivités. Que les collectivités vivent sous un régime socialiste intégral, ça ne les plaisait pas, alors il aurait préféré que les échouent. Alors on disait, Peiró pourra défendre ça, et pourra réussir à obtenir les fonds nécessaires pour acquérir toutes les matières qui nous sont nécessaires. Voilà. Le raisonnement de l'époque, c'est que nous avons tous pensé, acceptant ça et en disant, c'est déjà la catastrophe, la révolution, de fait, c'est déjà, dans une certaine mesure, pas trahi, mais compromise. L'entrée de la Généralitat a été le premier pas, maintenant celui-là, la situation militaire s'est dégradée chaque jour, parce que les autres recevaient les armes en abondance, les nôtres, on devait les fabriquer en Catalogne, en industrie de guerre, et venaient très parcimonieusement de la Russie, et un peu du Mexique, et ce qu'on pourrait adquérir avec l'argent qu'on réussissait à réunir avec la vente d'agrios, de Levante, de les potasses de Súria et tout ça, mais qui ne pouvait pas s'égaler, et qui recevait les franco-indésiens, qui étaient beaucoup plus armés que nous, et mieux organisés comme militairement, parce que nos milices étaient braves, étaient des gens d'un courage et d'un dévouement qu'on ne pourra jamais égaler, mais manquaient de discipline, manquaient, moi des fois je disais désespéré, la guerre on l'a fait comme c'était la guerre. Et l'erreur, à mon avis, la grande erreur commise pour nous, c'est croire qu'on pouvait faire une guerre de front. una guerra clásica. Y lo establecerá en España, si quieren, con ustedes Vietnam. Una guerra de guerrilla, una guerra de ambuscada, una guerra atacada en el par de arriere, pasa una guerra clásica. Está la guerra clásica, con usted va aquí delante. Es este que está peor, de ese momento.